t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver et de partager ces 57 minutes interactives dans ces numéros de parole aux auditeurs que vous propose Radio Okapi, la fréquence de la paix. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet échange citoyen. Le directeur général Miba est réhabilité dans ses fonctions par le ministre du portefeuille après une décision de révocation publiée la semaine dernière par le conseil d'administration. Le conseil d'administration donc de la Miba a reproché au directeur général des limites et incohérences dans la gestion et l'exécution de ses décisions conduisant l'entreprise dans une crise énorme. Certains observateurs estiment que cette affaire relance les débats sur la difficulté de fonctionnement de certaines entreprises publiques après transformation subie par les réformes engagées depuis peu. Que faut-il faire justement pour corriger quelques imperfections constatées dans le processus des réformes des entreprises publiques et comment commentez-vous cette affaire à la MIBA? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 07 69 64 et aussi pour le 09 89 07 64 49 69 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie dans cette émission. Mimi Kindou, Nico Okalambay concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmesleadersrdc@gmail.com.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous ouvrons ce débat avec les messages qui nous a été envoyé sur notre page Facebook par Marie-Paul Awa depuis Kisangani. Il dit « Il est inéluctablement prouvé que le fonctionnement des entreprises publiques et d'économie mixte de la RDC est tributaire à la réalité de l'évolution de l'économie de ces pays. De telle enseigne que depuis la nuit des temps, ces entreprises congolaises ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes lorsqu'elles n'ont pas tout simplement fermé pour faillite. Ajouté à ces fléaux tentaculaires, l'absence de la gouvernance des mandataires. Ces tableaux sombres annihilent substantiellement les efforts d'industrialisation de la RDC. De mon sens, il y a lieu de répartir sur les débats de la gouvernance matérielle afin de dynamiser et refonder l'administration et la gestion des entreprises publiques et privées en RDC. Les enquêtes doivent être diligentées par les politiques pour dénicher tous les problèmes au sein des entreprises publiques et privées en RDC. Nous avons également le plaisir de recevoir en ligne Lems Kamonya qui est avec nous. Bonjour Monsieur Kamonya.
Bonjour Monsieur Pierre.
Vous êtes expert en économie. D'entrée des jeux, est-ce qu'on peut confirmer que la réforme ou le processus des réformes en RDC a complètement échoué?
Non, on ne peut pas dire que la réforme a échoué. La réforme n'a pas tout simplement été achevée. Elle devrait passer par un certain nombre d'étapes. Il y a des étapes qui sont déjà réalisées. Maintenant, il faut parachever cette réforme par les dernières mesures qui sont les plus ultimes.
Et quels sont les vrais problèmes qui ont fait que ces processus puissent connaître quelques petites difficultés?
Bon, les difficultés rencontrées par la réforme des entreprises publiques, je peux dire, elles sont de trois ordres. Parce que au début, si tu dois rappeler rapidement les différentes phases par lesquelles cette réforme est passée, nous avions dans un premier temps procédé à ce qu'on appelle la transformation juridique des entreprises, des anciennes entreprises publiques. Parce que vous savez, en son temps, on appelait entreprises publiques aussi bien celles qui sont du secteur marchand, qui font des activités commerciales. On appelait aussi entreprises publiques, même les établissements publics et les services publics qui sont en fait les prolongements des administrations. Dans un premier temps, il était question de séparer les entreprises qui évoluent dans le secteur marchand de celles qui sont les prolongements des administrations publiques ou de l'État. C'est ainsi qu'on a eu ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les entreprises du portefeuille de l'État qui sont commerciales, et nous avons les établissements publics qui eux, sont en fait les prolongements de l'administration ou les prolongements de l'État. Maintenant, après cette transformation juridique, il fallait maintenant regarder quels sont les vrais problèmes qui minent les performances des entreprises. Parce que c'est ça qui devrait être en fait la deuxième grande phase de la réforme, parce que la plupart d'entre elles, soit surtout celles qui sont dans le secteur commercial, elles avaient une production qui était déjà vieillissante, n'avait pas été renouvelée, et n'avait pas autant de moyens pour résister sur le secteur commercial. Alors là, il était question de voir où l'État injecte de nouveaux moyens, où ces entreprises s'orientent vers la conclusion des partenariats avec le secteur privé, ce qu'on a toujours appelé les PPP, les partenariats publics-privés. Alors ces réformes sont douloureuses à mettre en place parce que lorsque vous devez chercher soit les moyens auprès des privés, ils veulent vous imposer un style de gestion qui est privé. C'est ce qui fait que certains vont vous dire il faut réduire le personnel, il faudrait avoir des outils modernes de gestion. Ce sont ces contraintes qui, au vu de certaines politiques de l'époque, n'étaient pas appropriées, surtout pendant un certain moment de la vie politique, de mettre en place les plans sociaux dans ces entreprises pour les rendre assez performantes. Et ça, ça a été au fait une des premières présenteurs qui a bloqué la performance, la réforme des entreprises. Bon, l'autre étape était justement, consistait justement à trouver les partenaires qui étaient prêts à pouvoir s'engager réellement en injectant de nouveaux capitaux des entreprises. Ça passe par des processus laborieux. Certains craignaient, en fait, que le climat des fers n'était pas assez amélioré. D'autres, aucun problème de garantie juridique et judiciaire pour apporter leurs capitaux et les sécuriser. Et ce sont des longues négociations qui arrivent à traîner, à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous allez constater que les entreprises sont arrivées à nouer de véritables partenaires publics ou des privés risqués sont venus injecter des capitaux dans nos entreprises. Parce qu'il y avait tous ces préalables qui n'ont pas été réalisés. Je crois que c'est à ce niveau-là aujourd'hui qu'il faut arriver à examiner ces problèmes, parce qu'en raison de un but, il faut maintenant aller pour parachever cette réforme. Soit l'État s'engage en disant voilà, je donne un nouvel élan, soit on réunit toutes les conditions, on lève tous les préalables qui aujourd'hui empêchent le secteur privé à pouvoir s'allier à nos entreprises publiques.
Alors, quand vous parlez de l'absence des partenariats sûrs, et rassurant pour accompagner l'État congolais dans cet objectif de réforme des entreprises, est-ce que aujourd'hui on peut dire que il y a nécessité de récapitaliser les parts sociales de ces entreprises?
Oui, en fait, la récapitalisation de ces parts sociales, ça c'est une des options qui est envisageable, parce que ces entreprises, elles demeurent encore la propriété de l'État congolais. Comme l'État est presque le seul actionnaire, donc il lui revient à lui pouvoir. C'est une possibilité qui appartient à l'État de pouvoir mettre de nouveaux moyens financiers dans ces entreprises ou leur doter d'un nouvel équipement ou d'un nouveau matériel de production. À ce moment-là, si l'État le fait, on donne un nouveau souffle à ces entreprises. Mais vous-même, vous connaissez notre État, il est confronté par moult problèmes, à telle enseigne que chercher à investir de nouveau dans ces entreprises n'était pas forcément cette option, surtout que l'État voulait se contenter dans son rôle d'être plutôt un régulateur et laisser ces entreprises se frotter aux lois du marché et être performantes, bien entendu, à moyen d'un certaines garanties. Alors, les contraintes financières de l'État l'empêchent effectivement d'intervenir avec beaucoup d'efficacité dans ce secteur, et c'est pourquoi l'État a ouvert cette porte auprès du secteur privé et même du secteur public étranger qui peut venir s'allier à ces entreprises pour voir comment les relancer.
Et depuis un certain temps, on a constaté quand même que certaines entreprises dites publiques connaissent un problème sérieux de trésorerie, parce que selon certaines analyses, ces entreprises prenaient en charge, en tout cas, les gros lots de son capital tournaient autour de la charge sociale qui avait 20% pratiquement. Et ce qui fait que certains ont même fermé, qui devaient fermer, qui continuent toujours à exister juridiquement, mais en réalité, ils n'existaient plus.
Oui, je vais même vous corriger, ce n'est même pas 20%. Les charges sociales aujourd'hui, dans la plupart des entreprises publiques, tournent autour de 80%. C'est-à-dire, tout ce que vous produisez est orienté vers les paiements de charges.
Des salaires notamment.
Alors, les salaires notamment, les cotisations et les frais médicaux et autres. Or, lorsqu'une entreprise se retrouve dans une telle situation, elle n'arrive pas suffisamment à épargner pour investir dans l'outil de production ou même pour se lancer dans la recherche et le développement afin d'améliorer aussi bien la qualité de sa production que la qualité de ses services. Ce qui fait que la plupart de nos entreprises, elles ne sont pas compétitives. Lorsque vous les confrontez aux lois du marché, elles broient du noir parce qu'elles ne peuvent pas tenir dans un environnement qui avance très vite, qui aujourd'hui, avec l'informatisation des services, avec les personnels qui subissent des formations, elles ne sont pas en mesure de soutenir ces rythmes. C'est pourquoi, à un moment, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas que l'État intervienne ou l'État lève toutes ces barrières, toutes ces contraintes qui empêchent les privés de pouvoir s'allier auprès avec ces entreprises.
Et c'est parmi ces entreprises qui ont une lourde charge sociale, on cite notamment la MIBA qui connaît des sérieuses difficultés. Alors aujourd'hui, le directeur général venait d'être révoqué par les conseils d'administration et à son tour, les ministres du portefeuille venaient de le réhabiliter. Alors cette crise, comment, quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation?
Oui, moi je pense que la meilleure façon d'éviter les crises au sein de nos entreprises, c'est tout simplement de respecter les textes légaux et réglementaires qui régissent les différentes entreprises. Parce que si ces textes sont respectés, à ce moment-là, chaque organe, même le ministre qui assure la tutelle, chacun sait où commence ses responsabilités, à quel niveau elles se terminent. Quand vous êtes un mandataire, un gestionnaire, c'est-à-dire vous avez une certaine délégation de responsabilité, vous avez une responsabilité à assumer. Et lorsqu'on constate qu'il y a des manquements dans votre chef au niveau de son entreprise, il y a des mécanismes qui sont prévus à l'interne. Ces mécanismes passent notamment par des audits, par des vérifications. Et si ces mécanismes s'avèrent que vous êtes coupable dans la façon de gérer, c'est que les décisions qui s'imposent passent par tout un mécanisme qui est légalement ou réglementairement défini par rapport à cette entreprise. À ce jour, on ne peut pas dire que les textes manquent. Les textes légaux, réglementaires et même conventionnels qui régissent les entreprises existent. Et même chaque mandataire, il connaît à quoi s'en tenir. Si nous respectons la procédure, que ce soit les ministres, que ce soit les conseils d'administration, chacun sait à quel moment il doit agir et de quelle façon il doit le faire par rapport à tous ces textes légaux, réglementaires et conventionnels.
Et quelles sont les limites des responsabilités pour les cas d'espèce entre les conseils d'administration et les ministères de portefeuille dans ces nouveaux formats de la réforme?
Oui, dans ces nouveaux formats de la réforme, il faut faire la part des choses entre d'une part les établissements publics et d'autre part les entreprises commerciales. Si je prends les établissements publics...
Prenons le cas de l'AMIBA.
Le cas de l'AMIBA, c'est une entreprise qui est commerciale. En fait, lorsqu'elle est commerciale, elle a un conseil d'administration, elle a aussi une assemblée générale qui est générale, là où siège l'État. En principe, il n'appartient pas au ministre d'aller faire les constats. Ces problèmes-là sont du ressort du conseil d'administration. Mais si le ministre constate qu'il y a eu des abus dans la démarche
du conseil
d'administration, à ce moment-là, le ministre peut intervenir pour essayer de remettre de l'ordre et surtout demander que les textes soient respectés pour éviter qu'on plonge dans l'arbitraire. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que les différents organes, les différentes autorités doivent, nous voulons consolider l'état des droits dans ce pays, et cette construction de l'état des droits passe par le respect des textes légaux, réglementaires et conventionnels qui nous régissent. Sinon, nous tombons dans l'arbitraire, on va commencer à gérer la caisse du client. Et ça serait un mauvais exemple, un mauvais signal que nous allons donner dans la vie.
Merci beaucoup, Lems Kamonia. Nous vous gardions en ligne pour ouvrir les standards et accueillir les autres auditeurs qui ont également commenté ce sujet sur notre page Facebook et d'autres qui viennent à peine de nous rejoindre pour, au fait, échanger de manière citoyenne avec nous. Trésor, vous êtes à Arou et Adolphe à Kananga. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Trésor, vous êtes à Aou, vous avez écrit et vous l'avez si bien dit que depuis Mbujimayi, la décision du ministre remet en doute les dossiers de l'AMIBA, car celui-ci devrait faire une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation avec toutes les couches concernées et en tirer une suite après et pouvait prendre une telle décision. Alors vous voulez dire quoi par là, Trésor?
Oui, bonjour JR, bonjour aux auditeurs de la radio de la paix. Ouais, en fait, la décision du ministre de portefeuille nous met vraiment en une difficulté aussi, en plus des doutes vis-à-vis à la situation qui dégénère à la société Liba. Donc, nous avons constaté que cette décision ne va rien apporter car le ministre qui a pris cette décision devrait descendre sur les lieux, s'enquérir de la situation, comme je l'ai noté dans mon intervention sur votre page Facebook, en fait de s'enquérir de la situation. Donc, lui-même n'a pas des effets, les effets nécessaires dont je peux citer. Vous avez sans doute constaté le mois dernier, dont les agents de la MIBA ont manifesté à mise de reprise devant les autorités provinciales pour réclamer le départ de cette équipe d'urgence, dont le DG lui-même était concerné, par prise de décision qui n'encadre pas avec le vrai sens du leadership.
Oui, mais les agents réclamaient quoi exactement?
Les agents...
Ils réclamaient les départs des dirigeants qui ne payaient pas leur salaire ou quoi?
Oui, les agents réclamaient le départ du DG, en ce qui concerne le colis de diamants qui a été détourné la fois passée par la même équipe, et que ceux qui avaient cette information ont voulu signaler aux autorités qu'il y a fuite quelque part. Et c'est les gens concernés, comme ils étaient en tête de cette équipe, ont voulu à tout prix peser sur les employeurs qui avaient cette information, disant que si quelqu'un osait encore renoncer ou donner cette information,
voilà. Si je comprends bien le Trésor, il y a eu manque de transparence dans la gestion, raison pour laquelle les agents sont montés au créneau pour réclamer les départs de l'RDG, et bien entendu parce qu'ils ne voyaient pas clair. Merci beaucoup Trésor. Adolphe, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être en contact avec vous la première fois d'intervenir.
Est-ce que vous pensez, Adolphe, que c'est possible de corriger ces certaines imperfections constatées dans ce processus des réformes des entreprises publiques, partant de ces cas qui viennent de se passer à l'AMIBA?
Oui, monsieur Gérard, moi je trouve que quand je lis sur Facebook que j'ai intervenu pour écrire ceci, je trouve que c'est le ministre qui a cette capacité-là de révoquer ou de mettre l'ordre dans ce qui se passe sur l'entreprise.
Oui, parce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale, juridiquement par là, oui.
Oui, juridiquement par là. Comme ministre venait d'être nommé par le président de la République, comme nous sommes déjà dans un état de droit, tout comité qui chapeautait l'entreprise de Liba allait d'abord s'asseoir tous les dossiers qu'ils avaient, en attendant que le ministre prenne les bâtons de commandement dans toute l'administration. Vous en doutez, le ministre n'a pas encore composé son cabinet, il n'a pas encore envoyé les gens pour le suivi, pour voir ce que l'inspection, pour voir ce que c'est fait. Donc le ministre de l'administration n'avait pas qualité de faire quitter les dossiers. Donc moi j'avais trouvé ça comme usurpation du pouvoir. C'est ainsi que j'avais écrit sur Facebook que non. Le ministre des portefeuilles avait tellement raison, lui-même qui
devait nommer. Mais Adolphe, le problème, c'est pas la tête des gens, mais aujourd'hui, c'est une réalité, l'AMIBA connaît de sérieux problèmes de la trésorerie.
Oui.
Parce que quand vous venez de suivre notre invité qui parlait même de 80% dans certaines entreprises qui sont prises pratiquement pour des charges sociales. Et qu'est-ce qui reste dans la production de l'entreprise? Et ce sont des entreprises qui sont censées de fermer, et quand ils tombent facilement dans un cas de mégestion, ça ne fait que créer des crises.
Oui. La mégestion crée des crises, mais comme il y a déjà et une nomination COTOP qui chapeaute toute la gestion, il avait fallu que cela commence par hiérarchie et descendre maintenant au niveau de l'intérieur pour maintenant rendre la situation. C'est ainsi que le comité d'administration était pressé de prendre la décision pour peut-être nuire à l'administration ou bien ce que le ministre des Portefeuilles allait faire. Voilà un peu la préoccupation hier.
Merci beaucoup Adolphe d'avoir appelé des Kananga. Cédric, vous êtes en Bouche-Baille. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour monsieur le journaliste.
Est-ce que vous avez le même regard que les autres aujourd'hui, les processus de réforme des entreprises publiques connaissent plusieurs imperfections qu'il va falloir corriger?
Alors, selon moi, je trouve qu'il y a une mauvaise collaboration entre le conseil d'administration de la MIBA et le ministre des tutelles, car la décision étant déjà prise par l'administration de la MIBA, le ministre ne devait que bien collaborer avec l'administration d'une manière discrète pour savoir la meilleure, la vraie raison de leur décision et aussi trouver de meilleures solutions qui ne devaient pas déranger les uns et les autres, c'est-à-dire le ministre ainsi que l'administration. Alors, la décision unilatérale prise par le ministre vient en tout cas dégrader le pouvoir qu'a l'administration. Le conseil d'administration sur la direction générale. En tout cas, je trouve que s'il y a une mauvaise collaboration entre la gestion des entreprises.
Oui, notre invité parlait tout à l'heure du respect des textes. Chacun doit comprendre là où ses responsabilités, ses limites. Merci beaucoup, Cédric. Alors, on revient à vous, Lems Kamoigna, expert en économie. Aujourd'hui, après avoir lu, disons, les commentaires des uns et des autres sur notre page Facebook, on comprend que finalement, la question de manque de transparence de la gouvernance se pose aujourd'hui avec acuité dans plusieurs entreprises publiques réformées ou transformées. Monsieur Lems?
Oui, allô, je vous écoute.
Est-ce que vous partagez cet avis qu'effectivement il y a des problèmes de mégestion?
Oui, bon, la mégestion, ce que j'ai dit, la mégestion, c'est un cas qui peut être inévitable ou qui peut arriver. S'il y a un gestionnaire qui sent qu'il a toute la liberté, il peut se permettre n'importe quoi, cela ne peut pas être mis au dos de la réforme. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que ces gestions, il y a, ça peut être vrai. C'est vrai qu'il y a parfois certains mandataires qui continuent à oublier que la gestion de l'entreprise, c'est comme leur propre bien, ils se servent comme ils veulent. Ils font des pratiques qui sont contraires à la loi et même aux meilleures pratiques en matière de gestion. Alors, on ne peut pas dire que ce phénomène est généralisé à l'ensemble des entreprises. Non, il n'est pas généralisé, mais quelques cas existent. Et les mécanismes pour arriver à mettre hors d'état de nuire ces mauvais gestionnaires, ces mécanismes existent.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le processus engagé à RDC depuis, c'était dans l'objectif de nous conformer au droit OADA?
Le droit OADA, ce n'est qu'une des étapes dans le cadre de ce processus. Le but de la réforme, ça il faut que les gens le comprennent très bien, le but de la réforme c'était d'une part pour les entreprises qui sont aujourd'hui établissement public qui assure en fait une mission de service public. Pour ces établissements publics, la mission c'est voir comment arriver à améliorer la qualité des services rendus aux Congolais. Ça c'était une chose, parce que vous connaissez bien que si vous allez chercher n'importe quel service auprès d'un établissement public ou d'un service qui relève de l'État, généralement les gens rentrent déçus, tous les services sont moniés, des choses comme ça. On voudrait extirper tous ces maux et permettre que ces établissements qui sont le prolongement de l'État puissent assurer une meilleure qualité de service aux Congolais que nous sommes. Mais pour celles qui sont du secteur marchand, qui évoluent dans l'environnement commercial, ces entreprises ont été créées soit pour répondre à un besoin économique, soit pour répondre à un besoin financier. Pour elles, on attend une performance, qu'elles deviennent performantes, qu'elles puissent générer suffisamment de ressources, qu'elles puissent arriver à répondre à l'objet pour lequel elles ont été créées. Ça, c'était au fait. Ce sont là les deux buts de la réforme. Tout ce que nous évoquons ici, c'est des processus qui devraient permettre d'avoir nos entreprises qui sont mieux cotées, qui sont performantes, qui arrivent à assurer la meilleure qualité de service aux usagers, aux Congolais, et qui savent même contribuer tant soit peu au budget de l'État. C'est ça, au fait, le but de la réforme des entreprises publiques.
Oui, mais pour le cas d'espèce, pour la MIBA, selon plusieurs analyses, il était de question que cette entreprise passe déjà, déclarée déjà faillite.
Oui,
par rapport à la performance.
Les problèmes, oui, c'est-à-dire, si nous analysons les problèmes de la MIBA, il est ailleurs. Le problème de l'amibat, c'est sur à quel niveau? Vous savez que pendant tout ce temps, l'amibat a toujours exploité ces diamants qu'on appelle éluvionnaires, c'est-à-dire qui proviennent des éluvions. Ces diamants aujourd'hui est épuisé. Maintenant, il faut aller explorer la roche mère qu'on appelle la kimberlite. Mm-hmm. C'est là que se trouve contenu les diamants qui peuvent être vendus et commercialisés afin de permettre à l'amiba de pouvoir explorer. Or, l'amiba n'a pas de moyens financiers, n'a pas un outil de production qui lui permet d'exploiter cette roche mère. Il faut de nouveaux investissements. Tout ce qu'ils font, c'est un peu du surplace. Est-ce que dans la gestion du peu qui existe encore, de ce qu'on essaye de ramasser à gauche, à droite, si c'est mal géré, je crois que les mécanismes existent pour les faire convenablement. J'aimerais éviter vraiment de me lancer dans un jugement assez tranché. Tant qu'on n'a pas analysé.
Non, parce que quand vous évoquez déjà scientifiquement l'exploitation qui pose problème, c'est qu'au niveau de la production, il n'y a rien qui rentre de très significatif. Et c'est ce qui fait que la MIBA, l'entreprise, connaît de sérieuses difficultés de la trésorerie et ne peut pas faire face à des problèmes, notamment de la gestion des personnels.
Vous avez tout à fait raison. Quand on regarde ce que la MIBA peut gagner aujourd'hui comme peut faire aujourd'hui comme recette par rapport à toutes les dépenses auxquelles elle doit faire face, en réalité, c'est difficile d'assurer un équilibre financier.
Et une telle entreprise dans l'économie est vouée à la faillite et doit être déclarée en faillite.
La quasi-totalité de nos entreprises du portefeuille devrait être déclarée en faillite si on devrait être vraiment strict. Elles devraient vraiment pour la plupart déclarer en faillite. Si elles tiennent encore, c'est parce que elles sont au fait des entreprises qui appartiennent au portefeuille de l'État congolais.
Oui, parce que quand nous prenons l'exemple de la SNEL aujourd'hui, la SNEL qui s'est engagée dans le processus même de la réforme, où il y a eu même des Canadiens qui ont apporté leur partenariat technique, mais jusqu'aujourd'hui, personne ne value cet apport technique, et finalement, on ne sait pas si ces Canadiens se sont volatilisés dans la nature, mais les mêmes problèmes persistent.
Leur contrat a pris fin. C'est vrai qu'on a toujours mis en avant aussi, quand vous évoquez ces problèmes de gestion, parfois on a dit, nous-mêmes en tant que Congolais, peut-être on n'a pas les repères de bonne gestion. Peut-être on ne connaît pas mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gestion. C'est pourquoi il y avait ces contrats d'assistance technique, d'assistance à la gestion, pour que les privés extérieurs, même sans apporter les capitaux, viennent nous montrer comment nous pouvons manager l'entreprise.
Mais quel est le résultat? Quel a été le résultat?
Mitigé.
C'est là où exactement. Les gens...
Le résultat a été mitigé. Pourquoi il a été mitigé? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. À telle enseigne que, on peut encore dire que l'interférence politique a continué à jouer dans la gestion de nos entreprises. Mmh. Et ça, c'est aussi un élément assez important. Parce que quelqu'un, vous pouvez voir un mandataire qui s'en fait tout simplement parce qu'il a des parapluies politiques. Et ça, nous devons mettre fin à ça. Si nous voulons que ces entreprises deviennent performantes, nous devons les laisser être géré, que les mandataires soient responsables devant ces actes et qu'ils soient entendus pour les mauvais actes qu'ils pourraient poser.
Tout à fait.
Mais dès lors, s'il fait que j'ai des parapluies, il peut prendre l'argent de la caisse de l'État pour aller financer son parti ou financer tel ou tel qui est mieux placé au niveau du parti, les jours qu'il y aura un problème, ce sera celui-là qui va peser de son poids pour qu'on le laisse en poste. Mm-hmm. Et à ce moment-là, le monsieur qui est là, il compte, il gère, il se dit qu'il n'y a pas d'impunité, il gère sans impunité et il se permet de faire des actes qui sont contraires, qui sont décriés par tout le monde. Et c'est ça aussi un des éléments importants sur lesquels nous devons insister si jamais nous voulons voir nos entreprises redécoller et réaliser effectivement leur objet social.
Alors, mis à part l'interférence politique, il y a d'autres qui évoquent notamment la question des rétrocessions, des rétrocommissions si vous voulez, un DG ou un simple agent qui va négocier au nom de l'entreprise ou au nom de la République et qui a droit à cette rétrocession ou rétrocommission.
C'est tout ça les différents mots dont nous devons extirper de nos entreprises publiques. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons la gestion, aujourd'hui parce que combien de cas, même dans les cas de partenariats, où nous voyons des appels d'offres, que ce soit dans la passation des commandes, dans la gestion des services, vous allez constater que beaucoup de contrats se font de gré à gré. Beaucoup de partenariats se signent de gré à gré. Et quand il y a ce gré à gré, que nous utilisons comme mode pour passer la plupart des marchés ou nouer des partenariats, c'est ce qui laisse libre cours à dépôt des vins, qu'on appelle ici les rétrocommissions. À ce moment-là, vous donnez la grosse part, notamment au privé ou à celui qui le fait, et il vous rétrocède quelque chose aux grandes dames de la société. Et ça, ce sont des choses, ce sont des pratiques qu'il faut décrier et auxquelles il faudra mettre fin. Et je pense que si aujourd'hui nous voulons voir ces entreprises aller de l'avant, c'est par exemple leur imposer l'appel d'offres comme le meilleur mode de passation des marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, elles sont régies par cette loi. éviter qu'il y ait tous ces contrats de gré à gré, éviter qu'il y ait ces problèmes où les gens négocient sur les pavés et ils viennent voir un ministre ou tel qui dit « Ok, vous pouvez signer ». À ce moment-là, celui qui vient là, tant qu'il sait qu'il va vous donner une rétrocommission, ce n'est pas de sa poche qu'il les donne, c'est sur ce qui devrait venir à l'entreprise.
Et c'est le DG, il protège son poste.
Exactement.
Voilà, donc c'est au grand dam des agents ou encore...
Des agents et de la société. Et effectivement, une bonne partie de nos entreprises, de telles pratiques continuent à exister. Et nous devons vraiment batailler dur pour que ces pratiques-là puissent prendre fin.
Voilà, Lems Kamonia, nous vous gardons encore en ligne. Vous êtes expert en économie et vous avez été l'un de ceux-là qui ont piloté la réforme en République démocratique du Congo. On va recevoir Sylvain, on va accueillir donc Sylvain, qui est à Bounia. Sylvain, vous êtes avec nous. Bonjour, professeur Sylvain.
Bonjour.
Quel est votre avis, Sylvain, au regard de cette affaire qui prévaut actuellement à la MIBA, et quelle est votre lecture sur le processus des réformes à RDC?
Je salue d'abord le collègue Lems. Je commence par la laïcité. Il faut imposer le respect de la loi numéro 0, de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public pour que les entreprises publiques de l'État marchent. Moi, je dis que c'est faux. C'est faux. Cette loi est toujours appliquée. Lorsque vous lisez cette loi, elle impose des règles qu'il faut respecter. Malheureusement, les dirigeants de nos entreprises ne les respectent pas. Ça, ce n'est pas le débat. Deuxième chose qu'il dit. Le problème de la MIBA est ailleurs. Il faut un nouvel investissement. Là, je suis d'accord avec lui, puisque ça fait appel à la notion du fonds de roulement. Monsieur le journaliste, vous avez soulevé un élément capital sur lequel l'EPS ne veut pas intervenir. Le problème, c'est le problème de la trésorerie. Et puisque nous parlons de la question du management des entreprises au Congo, je l'ai toujours dit, ceci fait rappel à l'analyse financière. Je vais noter plus que cet hémisphère pédagogique. En réalité, aujourd'hui, nous avons au moins 5 approches d'analyse financière des entreprises, puisque nous parlons de la trésorerie des entreprises qui pose problème et même qui génère les conflits dans les entreprises. La première approche, l'approche des 4 équilibres, l'approche de ratio, l'approche des points d'équilibre, l'approche verticale, l'approche horizontale. Et puisque vous avez parlé de la trésorerie, il faut lui dire ceci entre dans la première, disons, le premier élément de l'approche des 4 équilibres, l'équilibre de la trésorerie. Mais monsieur Lem se le connaît très bien. Lorsqu'on fait les rapports entre les fonds de roulement et les PGE à fonds de roulement, une entreprise à bonne santé, puisque nous y réfléchissons, doit avoir un fonds de roulement au moins, disons, supérieur ou égal aux besoins à fonds de roulement.
Le fonds de roulement comme Matela. Le fonds de roulement comme Matela.
Voilà. Puisqu'il a parlé du nouvel investissement par rapport à la MIBA, Benozan, on connaît bien la base des productions de la MIBA. Si réellement cette base a disparu, tel que mon collègue Lems l'a dit, au sein de l'entreprise, les plans stratégiques de développement mis en place devront toujours prévoir, n'est-ce pas, le plan de change, ou bien le cadre de l'échange, excusez-moi. Ça veut dire, une entreprise X, nous parlons de la MIBA bien sûr, j'ai aussi parlé de la Soukimo de chez moi à l'Ituri, qui souffre des mêmes problèmes. Lorsqu'on sait que déjà, la base de ma production est en train de courir vers la fin, le dirigeant intelligent qu'il est doit mettre en place des mécanismes de pouvoir changer la base. Et là, nous ne sommes pas arrivés. Puisqu'aujourd'hui, je ne veux pas parler de la mission, de la vision, des objectifs de l'entreprise, ou même de la moralité des dirigeants, ou de leur capacité managériale. Moi, je parle des moyens dont doit disposer l'entreprise pour sa survie.
Oui, Sylvain, pour faire vite, est-ce qu'aujourd'hui, il y a nécessité de récapitaliser les parts sociales? Ou bien carrément déclarer toutes ces entreprises en faillite?
Je donne deux ou trois propositions, si vous le voulez.
Oui.
Toute entreprise en mauvais fonctionnement, de choisir soit de vendre ses parts ou de racheter d'autres capitaux ou de se constituer en cartel. Ces trois moyens sont possibles pour relever le niveau de la production. Eh bien, donc, on peut faire le cumul de capitaux de plusieurs entreprises pour redresser une autre et ça permet que l'entreprise marche. Mais ici, chez nous, excusez-moi, je termine par là, je voudrais que mon collègue Lems puisse quand même détailler avec nos auditeurs les éléments qui contribuent à l'échec de nos entreprises, c'est que nous n'avons pas mis l'intelligence à exploiter les bases de production que nous avons.
Mais lorsqu'il parle de l'absence de partenariat pour accompagner l'État dans cette démarche de la réforme, ça ne peut être qu'un élément aussi très important, professeur Sylvain.
Bon, écoutez, il a parlé bien sûr du PPP, partenariat public-privé. Mm-hmm. Mais vous savez, dans les PPP qui manquent, nous avons des personnes léonies qui ne permettent pas à que des contrats soient au profit d'entreprise.
C'est là où l'application de loi que vous venez d'évoquer, 10/010/2010, sur les marchés publics, doit être appliquée de fond en comble pour éviter des contrats léonais.
Cette loi a été appliquée. Cette loi a été toujours appliquée, mais très mal appliquée. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, j'allais souhaiter qu'un jour vous puissiez nous inviter sur l'émission PA pour que nous puissions en parler, puisque cette fois, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, des personnes censées réaliser cette loi, apparemment, ont déjà...
Ils ont l'esprit ailleurs.
Des poids politiques à la peine qui ne travaillent pas au profit
voilà.
de cette loi.
C'est là qui laisse place les comités de gestion, notamment de l'AMIBA, parce qu'il y a un auditeur qui l'a dit ici, qui va lui-même, dans ce comité, va négocier avec un diamant, semble-t-il, selon cet auditeur, qui disparaît. Et certains agents, avec leur vigilance, n'ont pas donné l'occasion à ces comités de faire disparaître ces diamants. Et c'est les nerfs de la guerre, c'est tous ces problèmes et cette crise qui est engagée maintenant au niveau de l'AMIBA. Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé de Bounia. Roland, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Julien, bonjour à vous. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi, si vous permettez que je salue en le retrouvant à ce net moment, malgré un temps d'absence.
Vous avez la parole, Roland.
Merci bien. La question soumise à notre réflexion ici, j'aurais voulu moi le parler sur la technique, donc sur le plan politique. Et je ne veux pas ici, je devrais laisser ici la performance de notre expert qui nous a bien étalé sur le plan de fond de cette situation. Moi, la question que, donc, certaines questions que je voudrais me poser ici et poser aussi à notre invité, c'est de savoir quelles sont les attributions louées au conseil d'administration. Quelles sont également les attributions allouées au ministère du tutelle, c'est-à-dire le ministre du portefeuille. De sorte que, s'il y a un DG qui commet des bavures pendant sa gestion, est-ce que le conseil d'administration n'a pas qualité de les juger, par conséquence, de lui révoquer pour que cela puisse engendrer aujourd'hui un chevauchement, un chapitrement entre les conseils d'administration et le ministre du portefeuille. C'est ici pour moi de saluer également la réforme dont parle notre invité. La réforme est la plus importante, de sorte que nos entreprises publiques retrouvent leur performance, retrouvent leur image du devant. Mais il faut tirer attention, parce que la réforme actuelle, elle est devenu politique et politisé. Vous imaginez la
Oui, mais quel est le regard que vous avez, Roland, lorsque notre invité insiste sur le but de la réforme, en deux catégories, donc il y a des entreprises qui étaient censées améliorer leur qualité des services aux Congolais, et aussi une deuxième catégorie, c'est-à-dire des entreprises commerciales qui devaient répondre à un besoin économique ou encore financier. Et là repose la question de la performance. Alors, votre regard à vous par rapport à toutes ces entreprises publiques, quel est le résultat sur terrain?
Non, mais le résultat, il est négatif. Donc les résultats sont négatifs. Pourquoi? Parce que ici, on ne met plus encore les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On ne met plus les techniciens du domaine. Ici, ce sont des partis politiques. Aujourd'hui, les CCKH, par exemple, pour ne pas les citer, qui se donnent le luxe aujourd'hui de dire les entreprises publiques, on doit se dispenser, on doit se diviser, tel prend tel poste, tel prend tel poste. Mais au cas où le DG commettra des erreurs, au cas où le DG commettra des fautes,
il faut revenir encore à la coalition pour retrouver les remplaçants. Merci beaucoup, Roland. Alors, on va prendre Arsène. Arsène, vous êtes avec nous. Nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission. Vous avez également la parole, Arsène. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Juillet. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Alors, moi, je prendrai la situation plus du côté technique et tactique. L'histoire qui s'engage dans nos entreprises d'État, et cette histoire, elle est d'abord... C'est dans le système même de la gouvernance de la nation. Alors, une entreprise est divisée en trois parties. Il y a l'homme, il y a la machine et il y a les finances. Au-dessus de ces trois points-là, il y a le propriétaire. Qui est le propriétaire de l'AMIBA? Le propriétaire de l'AMIBA, c'est l'État. Qui représente l'État? Ce sont des acteurs politiques. Est-ce que nous avons des acteurs politiques conscients de la chose publique? Alors là, il y a quelque chose qui ne se passe depuis quand l'AMIBA est par terre. Même s'il y a ce qu'on appelle réforme, la loi. Mais si cette loi n'est pas respectée, qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours parlé de normatifs. Le normatif, c'est juste la loi. Et dans les normatifs que j'ai toujours évoqués, nous avons les normatifs des machines. Nous avons les normatifs de l'homme. Nous avons les normatifs de l'argent. Alors, vous arrivez à un certain point, pour des intérêts, je ne sais quels intérêts, les gens ne savent pas gérer. Regardez JR, observez un tout petit peu. Tout ce qui est l'État, ça veut dire de la saleté. Tout ce qui est l'État, ça veut dire de la saleté. Observez, vous êtes dans une parcelle très propre. Dès que vous sortez dans la rue, c'est de la saleté. Donc, je voulais dire ceci, qu'on commence d'abord par conscientiser l'homme politique. Du sommet de l'État jusqu'à la personne qui se trouve dans les mines là-bas en dessous, au fond, vous verrez que les gens qui travaillent durement, qui sont sur les machines, qui se cassent, qui meurent, qui se... Voilà, mais l'homme qui est sur une chaise ici à Kinshasa, il va prendre des décisions comme ça, remettre une personne que les autres ne veulent pas travailler avec eux, il va le remettre en place. Quoi? Les normatifs, la loi. Tout ça, vraiment, nous devons chercher à remettre la conscience que nous avons une nation à bâtir, les instruments que nous avons, tels que la MIBA, la GKMINE, Kilomoto, toutes ces histoires-là, nous devons savoir que ça a une façon de se faire gérer. La machine ne se fait pas gérer par une politique.
Vous merci, politique. Merci beaucoup Arsène. Alors on va prendre Pichou qui nous a rejoint. Pichou, vous gardez la ligne, il est temps de rappeler à ceux qui viennent à peine également de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi participer à cette émission autour de la crise au sein de la MIBA. Le directeur général de la MIBA qui est réhabilité dans ses fonctions par les ministres du portefeuille après une décision de révocation publiée la semaine dernière par les conseils d'administration. Alors certains observateurs estiment que cette affaire relance les débats, la difficulté de faire des certaines entreprises publiques après transformation subie par les réformes engagées depuis peu. 081 893 30 ou encore les 081 890 49.
L'émission DAP a un nouvel air after ce vendredi. Retrouvez le commun autorisé de fréquence de la paix tous les vendredis de 21h à 20h. Et en rediffusion tous les samedis de 15h10 à 17h. Heure de Kinshasa avec Nico Kalambay.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Lems Kamwania, expert en économie, vous venez de suivre cette longue série des auditeurs. Quelle est votre réaction après avoir écouté notamment Sylvain qui a évoqué également la loi du 27 février 2010 sur le marché public?
Oui, d'abord je commence par les saluer et les remercier pour son intervention. Je crois que lui-même il a souligné, l'émission elle est pédagogique, mais on a évité de l'amener dans un domaine d'analyse financière très poussé pour que nos auditeurs, peut-être qui ne sont pas du domaine, aient des difficultés pour le comprendre. Mm-hmm. C'est ainsi qu'on a préféré rester sur les plans des grands principes, des grands problèmes qui minent aujourd'hui le fonctionnement et la performance de ces entreprises, et même leur mode de gouvernance, si avec l'interférence de différents organes, les conseils d'administration ou la tutelle, ou les ministres du portefeuille qui représentent l'État propriétaire, amènent tout ce que nous voyons aujourd'hui comme difficulté. Mais en suivant la plupart de nos auditeurs, même dans son analyse, ce qu'il faut retenir, c'est que, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, nos entreprises aujourd'hui, on ne peut pas dire que les moyens manquent, ou bien les ressources manquent. Ce qui leur manque, c'est l'outil de production. C'est vrai que ce qui est généré par rapport aux énormes besoins, je crois que la plupart d'entreprises connaissent même ce problème d'arriéré de salaire. Si vous faites les points dans la plupart d'entreprises, je crois que plus de la moitié d'entre elles sont confrontées à des arriérés de paiement parce que ce qu'elles génèrent aujourd'hui ne permet pas de couvrir l'ensemble de leurs charges sociales. Elles tiennent encore parce qu'elles sont des entreprises du portefeuille de l'État. Sinon, au regard du droit au WADA, la plupart d'entre elles seraient déclarées en faillite. Le problème, c'est lequel? il faut avoir aujourd'hui un niveau de production qui est compatible avec les charges sociales. Il faut avoir aujourd'hui un niveau de performance qui permet à l'entreprise non seulement de couvrir ses charges, mais de continuer à investir dans la recherche et développement et surtout de continuer à investir dans la dans l'outil de production. C'est ce qui manque aujourd'hui aux entreprises. La recapitalisation, il faut l'envisager. S'il faut l'envisager, il n'y a que l'État qui est jusque-là le seul actionnaire. Ça, c'est difficile. Damiba encore, je sais qu'il y avait un privé qui avait 20%, mais je connais bien les ténèbres au sein de ce dossier par rapport à la question qui concerne l'augmentation du capital. Il y a toujours des exigences. Les deux partenaires entre l'État et les privés n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, notamment en rapport avec la gouvernance. Mmh. J'ai évoqué les problèmes d'interférence politique. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable. Le but de la réforme, c'était de placer les gestionnaires devant leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre elles recourent encore à ces parapluies politiques. Nous devons faire un effort pour que cet état de choses puisse cesser. Vous vous rappellerez qu'à un moment donné, les copyrèpes avaient même organisé les tests pour recruter les mandataires de l'État. Mmh. C'était pour leur faire voir que si vous êtes assez de l'entreprise, ce n'est pas parce que vous avez été recommandé par un politique, c'est par rapport à vos capacités de pouvoir gérer. C'était une façon de leur dire moralement, soyez indépendants parce que vous êtes là par vos mérites et non pas par les bons vouloirs de quelqu'un. Mais ce message n'est pas passé. Parce qu'en dépit de ça, en dépit que certains d'entre eux ont été rejetés sur le concours, tous sont accourus pour chercher des couvertures politiques parce qu'ils veulent se maintenir. Et nous connaissons aujourd'hui l'ascenseur qui est donné lorsque vous cherchez ces différentes couvertures politiques. Alors, le problème des partenariats, des privés, ce problème est réel. Il faut injecter du capital dans ces entreprises. Et au même moment, nous devons assainir leur gestion. Pour assainir leur gestion, il ne faudrait pas que le mandataire soit un plénipotentiaire qui peut se comporter sans pour autant avoir la peur de rendre compte. La responsabilisation, l'obligation de rendre compte devra être les réflexes premiers de chaque mandataire. Ensuite, il faudrait que ces organes, par exemple les conseils d'administration qui définit la politique générale, qui contrôle l'entreprise dans sa mise en œuvre avec les autres organes de contrôle, puissent se rassurer que effectivement l'entreprise est en train d'évoluer conformément aux objectifs et à la politique qui lui a été définie. Et si elle rencontre des problèmes, c'est auprès du conseil où elle peut arriver à faire voir les problèmes et proposer des pistes de solutions pour la performance des entreprises. Mmh. Mais apparemment aussi, ces relations entre les gestionnaires et les conseils qui est presque observateur, constateur, ces relations ne sont pas toujours bon enfant. Il y a toujours beaucoup de problèmes. Parfois, on voit
oui, parce que les gestionnaires lui dit, moi je suis le gestionnaire au quotidien, vous n'êtes voilà. Que le conseil d'administration une fois et puis on vous paye par jeton. Je ne sais pas c'est oui. Les mécanismes, ça vient d'où. On paye par jeton et les conseils d'administration se contentent juste de ces jetons-là et des biens qu'on leur donne et ça s'arrête là.
Mais c'est ce que nous avons voulu dans la réforme, non? Parce qu'aujourd'hui, vous avez les membres du conseil, certains préfèrent avoir la place de gestionnaire. Vous avez des PCA qui veulent se comporter comme les DG. Ce n'est pas ce que la réforme a prévu. Vous êtes président du conseil d'administration, vous présidez les réunions, vous définissez la politique, essayez de vous rassurer tous les 3 mois que tout fonctionne normalement ou de manière extraordinaire s'il y a des crises et actionnez les autres mécanismes de contrôle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère et l'autre qui supervise la gestion. Mmh. Si tout le monde devient gestionnaire à ce moment-là, ça devient compliqué de voir dans quelle direction l'entreprise va aller. Et ensuite, vous avez la tutelle pour ce qui est les établissements publics qui est là pour entériner, soit par voie d'approbation, soit par voie d'autorisation préalable, soit par voie d'opposition, les décisions qui sont prises au niveau du conseil. Un ministre, par exemple, dans un fonds public, ne peut pas prendre une décision d'autorité. Lui, il est limité aux délibérations du conseil pour lesquelles il doit soit donner son approbation ou donner son opposition, point à la ligne, ou même donner une autorisation préalable pour les cas qui ont été définis par les législateurs. Mais il y a des ministres qui veulent aussi outrepasser, pensant que les entreprises deviennent comme sa propriété privée, peut prendre des décisions, il peut interférer et faire ce qui lui plaît. Non, ce n'est pas ça, même si vous êtes ministre, l'État ne vous a pas donné ses pouvoirs. Je crois que c'est là qu'il faut respecter. Au niveau des entreprises commerciales, il y a l'Assemblée générale, même si l'État actionnaire unique qui est là. Et là aussi, le ministre doit savoir aussi agir dans les limites des fonctions, des attributions qui lui sont conférées par l'État dans ces domaines. Je crois que tout ça, ce sont des petites choses, apparemment petites, mais qui sont les plus importantes, qui doivent garantir une saine gestion des entreprises, même dans l'État où elles se trouvent aujourd'hui. Mais une fois de plus, nous devons vraiment parachever cette réforme. Vous avez suivi le premier ministre dans le programme de la réforme. Il a insisté sur cette nécessité de parachever cette réforme rendre nos entreprises performantes. Et cette performance passe aussi par une bonne gestion, par une bonne administration d'entreprise dont les différents organes doivent assumer pleinement chacun son rôle.
Merci beaucoup, Lems Kamonia. Et on va écouter juste le dernier auditeur et puis on va se séparer. Pichou, vous êtes à Kwilungongo. Bonjour, Pichou.
Bonjour, JR. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Oui, rapidement, quelle est votre proposition? Vous avez suivi notre invité qui a dit
il faut
parachever.
Voilà. Malheureusement, je suis à la fin.
Oui, il faut parachever les processus.
Je dis ceci. Dans notre entreprise aujourd'hui, nous devons combattre le laxisme, la monotonie. Là, on veut assister, on s'apprête à nommer le gestionnaire de l'entreprise publique. On risque d'assister ou de connaître les mêmes erreurs si nos politiques ne mettent pas du sérieux dans leur nomination. Nous ne voulons pas des postes ou des recommandations, on va nous envoyer des gens qui ne connaissent rien. On va par exemple nommer à la SCTP. Nous connaissons dans les temps, revenons dans les temps où il y avait un blanc à la tête de l'ONATRA. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de cas sociaux. Mais maintenant, qu'est-ce qui existe? Le cas de la MIBA. La MIBA est une entreprise commerciale. Ça produit. Où est parti tout l'argent produit dans les années passées antérieures? Nous voulons du sérieux. Le chef de l'État l'a bien dit dans ses discours du début qu'il veut l'amélioration des conditions de la population. Et là maintenant, où nous apprêtons à nommer, nommons des gens utiles. Ne nommons pas des gens parce qu'il est dans tel parti politique. Mettons des gens qui vont répondre aux exigences de la population.
Mais parce que nous sommes dans une coalition, Pichou, si déjà des partis politiques réclament des postes au niveau de cabinet ministériel, et la coalition, les partenaires de cette coalition tient à ce qu'ils puissent partager aussi les entreprises publiques, finalement, on est loin vraiment du résultat de parachever ces processus, comme le souhaite d'ailleurs notre invité, et aussi le Premier ministre.
C'est ça la désolation, la grande désolation. La main qui tente, c'est la main qui commande. Aujourd'hui, nous allons assister. Vous avez vu les cas, par exemple, les cas que vous avez cités. On demande à ce qu'un responsable puisse quitter. Il y a le ministre qui s'impose parce que il est sous couvert. Mais il y a des cas litigés, il y a des cas qui sont réclamés par la base, les travailleurs, qui connaissent la gestion de cette personne. Mais quand vous imposez quelqu'un comme ça, il s'expose même lui-même.
Merci beaucoup, hein? Pichou. Merci beaucoup, Pichou. Nous disons, on va terminer par là, Pichou. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Lems Kamonia, vous avez été notre invité. Vous êtes expert en économie. Merci de votre disponibilité, d'avoir accepté d'échanger avec les auditeurs autour de ces sujets sur la MIBA et sur la réforme des entreprises publiques. À très bientôt, Monsieur Lems.
Merci, à très bientôt, merci beaucoup.
Merci aussi à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Mimi Kindou, Nico Kalambay et Piro Elameji. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Labung, Angie. À très bientôt pour un autre numéro.